Chapitre 82. Savine m'a délié les chevilles pour que je puisse marcher. Elle a sorti de son sac un revolver qu'elle pointe vers moi. « Je ne vais pas vous mentir, m'a dit, je m'en suis jamais servi. Peut-être suis-je incapable de viser ou de tirer. Mais à vous d'évaluer le risque. Vous préférez peut-être revoir votre fils. » Je ne discute pas. Comment le pourrais-je d'ailleurs, toujours bâillonné, poignet attaché? Je la précède, suivant ses indications, le couloir de droite d'abord, puis celui de gauche, encore à gauche, une pièce, une autre pièce, froide, sombre, au mur de lave rose chair, coupant, strié de veines rouges sang. Ma paupière droite restée collée, prisonnière d'une glu de sang séché. Ma tête me fait souffrir. Dès que je me suis levée, j'ai ressenti un vertige. Incapable de distinguer si c'est le décor tout autour de moi qui tourbillonnait ou seulement mes pensées. Je dois me concentrer, faire le vide. Je dois expulser de mon cerveau les mots empoisonnés que ce monstre y a injectés. J'ai eu de la chance que vous soyez une aussi mauvaise mère.
À droite, jusqu'au bout.
Savine me force à m'engager dans une galerie qui ressemble à un cul-de-sac. J'avance en direction de l'extrémité du tunnel, de plus en plus clair. Le couloir étroit s'ouvre sur la falaise. A priori, si je n'ai pas perdu tout sens de l'orientation, nous sommes proches de l'endroit où j'ai entendu la voix de Tom, avant que Savine m'assomme. Dès que je débouche à la lumière, je repère le surplomb rocheux qui protège la falaise, la neige moins épaisse, les plateformes et l'escalier qui permettent de grimper jusqu'à une dernière cellule, à l'écart des autres, fermée par une grille.
« Grimpez !»
m'ordonne Savine. Je monte le long de la falaise de tuf en me collant le plus possible à la paroi. Humide, elle s'effrite à chaque pas. Ne surtout pas regarder en bas. Ne pas laisser l'air frais m'enivrer. Ne pas laisser mon crâne exploser dans cet étau de vent glacé. Ne pas penser qu'à tout instant, ce monstre peut tirer. Je ne suis pas une mauvaise mère. J'aurai l'occasion de le prouver. Il me restera forcément une dernière occasion. Je parviens sur la plateforme et je m'effondre à genoux devant la grille, à bout de force. Mon œil droit s'ouvre pour la première fois, quelques millimètres entre ma pupille et ma paupière. Il laisse filtrer une fissure de lumière qui me brûle tel un éclair. Savine, sans cesser de pointer le canon du revolver vers moi, sort un trousseau de clés. Elle ouvre le cadenas qui retient les deux battants de la grille de fer et la tire dans un sinistre bruit de portail de cimetière.
Entrez! Vous aurez plus chaud à l'intérieur.
J'entre. Savine n'a pas menti. La température est presque étouffante dans cette étrange pièce carrée au mur entièrement blanc. Un choc thermique de moins 20 degrés qui augmente encore au fur et à mesure que je m'enfonce dans la grotte. Je titube. Ils sont là. Mon Dieu, ils sont là. Tous les deux, près de la grande cheminée, appuyés contre un tas de bois. Je déglutis. Mon bâillon est trempé du flux et reflux de mes mots entravés. Tom dort, Gabriel tremble de peur. Sur lequel des deux poser mon regard en premier? Mon Dieu! Tom est si vulnérable, Gabriel baisse les yeux. Tom respire doucement, Gabriel retient son souffle, n'ose pas parler, attend peut-être que je le fasse, il n'a pas dû remarquer que j'étais bâillonnée.
Tu ne dis pas bonjour à ta maman, Gabi?
Gabriel est attaché, cheville liée. Bras et poignets liés. Savine braque toujours son arme sur moi.
Ne fais pas ton timide. Je n'ai pas cessé de lui faire des compliments sur toi. Et bonne nouvelle, tu vas enfin pouvoir avoir ta maman pour toi tout seul. Tom va disparaître de votre vie. Je pars avec lui. Ton ami ne pourra pas te dire au revoir, je suis désolée. J'ai dû lui donner un médicament pour qu'il dorme, qu'il ne se souvienne de rien, ou presque. Tu vois, tu resteras son fantôme préféré.
Je voudrais broyer mon bâillon entre mes dents, pour pouvoir hurler, cracher, mordre, dire « je t'aime », dire « je suis là », dire « sauve-toi », dire « n'aie pas peur ». N'aie pas peur. Même si Savine ne peut pas nous laisser derrière elle, vivant, cela foutrait en l'air tout son plan. Elle s'est avancée, serre toujours la crosse de son revolver et se penche avec douceur sur le corps endormi de Tom. Va-t-elle vraiment nous tirer une balle dans la tête? Peut-elle passer aussi rapidement de l'amour pour Tom à la haine pour ce qui la gêne? Est-elle à ce point? Gabriel bondit à ce moment précis. Celui où Savine est la plus proche de lui, où elle s'y attend le moins.
Les pieds de Gabriel sont toujours liés, mais ses mains se sont miraculeusement libérées. Il tient un couteau dans son poing et, sans hésiter, frappe Savine à l'épaule. Elle roule sur le côté, touchée. Gabriel s'est aussitôt agenouillé et lève à nouveau son arme, frappe encore. Je cours vers eux aussi vite que je le peux, K1KA, sans pouvoir me servir de mes bras. Je suis fière de mon fils, si fière. Mais ça suffit, Gabi, on va la maîtriser à deux. Ne la tue pas, tu le regretteras. La lame frappe encore une fois la poitrine de Savine. Non, Gabriel! Je suis presque sur elle, le monstre agonise, mais je me méfie d'une ultime convulsion. Pas assez! Le corps allongé de Savine se détend soudain et d'un mouvement de jambe balaie le sol de toutes ses forces, frappant de plein fouet mes tibias. Je m'effondre comme une quille alors que Savine se relève déjà. Il n'y a pas une goutte de sang sur ses vêtements. Pas un accroc. J'ai l'impression d'avoir assisté à une mise en scène, un duel de carnaval, à un combat à armes factices. Savine arrache avec violence le couteau des mains de Gabriel et le repousse violemment sur le tas de bois. Sa tête cogne le mur blanc, il laisse une trace de sang avant que son corps désarticulé roule sur les bûches. Il ferme les yeux un instant. « Gabi !» Pour les rouvrir aussitôt et porter la main à sa poitrine, je découvre, terrifié, qu'une mare pourpre inonde son blouson à hauteur de son poumon. « Non, Gabi, non !» Je n'ai jamais vu un tel masque de douleur déformer le visage de mon fils. Une telle souffrance, une telle terreur. Il ouvre son blouson et en tire, avec autant de désespoir que s'il s'arrachait le cœur, une petite fiole de verre, brisée, dans lequel un fond de liquide rouge coule encore. Merci, mon Dieu, merci! Savine observe la bouteille brisée et sourit. Elle a récupéré son revolver. Elle prend une seconde pour examiner le couteau avec lequel Gabriel l'a agressé, puis se retourne vers lui. Tu es vraiment très courageux, Gabriel. Il a dû te falloir beaucoup d'énergie pour parvenir à couper tes liens avec un couteau aussi inoffensif. Aster a raison de ne pas laisser les enfants accéder aux armes dangereuses dans son magasin, qu'ils ne puissent voler que des jouets. Les yeux de Gabriel sont embués de larmes. Tom dort toujours, assommé par la drogue que Savine lui a fait consommer. Je reste allongée, genoux écorchés, tête fracassée. Cette fois, conclut Savine, je vais vraiment devoir m'en aller. Je ne voudrais pas que Tom se réveille et assiste à cette scène. Je vous laisse le feu. Elle range le canif dans sa poche et lance trois nouvelles bûches dans l'âtre. Gabriel, tu es un garçon intelligent. Sais-tu comment s'appelle cette pièce? D'un revers de main, Gabriel essuie ses larmes. Sa chute l'a sonné. Il est à bout de force. Mais je suis impressionnée par le regard d'animal sauvage qu'il a le courage de lancer.
Le mouroir,
dit-il sans baisser les yeux.
Exact. C'est ici qu'on entreposait les cadavres. C'est pour cela qu'on peignait les murs à la chaux. Cela évitait les épidémies. Enfin, il paraît. C'est pour cela aussi qu'il y a une grande cheminée, pour brûler les corps quand il y en avait trop. Heureusement, elle ne servait pas tout le temps.
Gabriel, cette fois, s'est effondré sur le tas de bois, terrassé par le contre-coup du choc. Il a lutté autant qu'il a pu. Je veux me persuader qu'il n'a rien de grave. Je dois l'examiner. Je dois le soigner. Je dois me procurer cette occasion, cette dernière occasion. Je dois le sauver. Savine se déplace sur la droite de la cheminée et lève la main vers une chaîne dissimulée le long du conduit. Sans savoir qu'elle est là, il est presque impossible de la remarquer.
C'est pourquoi, explique-t-elle, la plupart du temps, la cheminée du mouroir reste fermée. On ferme la trappe et hop, ça évite à la neige, aux oiseaux et à toutes les autres saletés possibles de l'obstruer.
Sa main se referme sur la chaîne.
Évidemment, il faut éviter de fermer la trappe quand le feu est allumé. Sinon, la fumée ne peut pas s'échapper et on se retrouverait très vite asphyxié.
Elle baisse son bras d'un mouvement sec. Clac ! Elle a brisé la chaîne et la trappe se referme. Presque immédiatement, un appel d'air attise le feu avant que la fumée ne cherche vainement une issue et, perdue, commence à se répandre dans le mouroir. Elle pointe son arme sur le corps immobile de Gabriel, mais s'adresse à moi.
« N'essayez rien pendant que je porte Tom dehors. Je ne voudrais pas être obligée de tirer sur un garçon aussi courageux. »
Je suis parvenue à me lever. Le visage figé de Gabriel se floute déjà derrière le nuage noir qui s'élève en volute vers le plafond. Je me poste devant elle, jambes écartées, poignets liés. Elle braque le canon de son revolver sur mon front.
« Poussez-vous, Maddy. Je ne veux pas risquer d'asphyxier mon fils. »
Je ne bouge pas. Je la fixe, déterminée à lui faire comprendre que je veux parler.
« Désolée, Maddy, je n'ai pas le temps. »
Je lève mes mains jointes en signe de prière, sans céder.
Elle replie son index sur la détente, sans que je réagisse. Exaspérée, elle m'arrache mon baillon. Je prends à peine le temps de déglutir. J'avale ma salive en un haut-le-cœur et je crie.
« Juste une question, s'il vous plaît !»«
Dégagez, je vais tirer !» La fumée monte jusqu'au plafond du mouroir et s'y accumule. On peut encore respirer dessous, pour quelques secondes. Je m'exprime aussi rapidement que je le peux.
Quelque chose aurait dû vous étonner, Savine. Souvenez-vous, c'est Aster qui a découvert le corps de Jonas. C'est elle qui a fait le rapprochement entre l'arme du crime et le couteau volé dans son magasin.
Mes mains jointes se lèvent et se baissent pour ponctuer ma tirade.
Évidemment, rugit Savine. C'est moi qui l'ai volé, je vous l'ai dit.
Elle s'approche encore. Je devine qu'elle hésite à tirer. Elle préférerait nous laisser mourir ici en ne conservant aucune image de notre agonie. Mais la fumée nous coiffe déjà d'un voile noir. Elle ne va pas prendre le risque d'attendre davantage. Elle m'abattra dès que le nuage de cendres lui piquera les yeux, le nez. Je débite toujours plus vite.
Pourtant, quand Aster a appelé à la souille tout à l'heure, souvenez-vous, elle a accusé Gabriel.
Savine, pour la première fois, me regarde droit dans les yeux. Intriguée, comme si elle avait enfin entreaperçu que quelque chose clochait. La nuit de suie continue de tomber.
Réfléchissez, Savine. Aster n'aurait pas appelé la police pour un vol de canif.
Mes mains poursuivent leur danse avant de se bloquer à nouveau, jointes à hauteur de ma poitrine. La fumée descend sur nos yeux. Nos regards se troublent. Je vois le canon du revolver trembler, un doigt se crisper. Un flash surgit, celui d'un cadeau emballé sur la table de ma cuisine hier soir. Je parle le plus vite possible avant qu'elle se décide à tirer.
Gabriel a volé un vrai couteau dans le magasin d'Aster, mais il me l'a offert!
Un éclair de surprise traverse les yeux de Savine, une seconde de stupéfaction qui suffit à ralentir sa réaction. Au moment même où le brouillard sombre nous enveloppe, je tends mes mains liées, en aveugle, et plante le tiers gentleman à cran d'arrêt, caché entre mes deux paumes, plein cœur. Elle s'effondre aussitôt, sans comprendre, foudroyée. Depuis ce matin, personne n'a pensé à me fouiller. Le couteau auvergnat, une fois replié dans son manche, n'est pas plus gros qu'un stylo. Il m'a fallu d'interminables minutes et d'infinies précautions dans la grotte pour le récupérer au fond de ma poche sans que Savine remarque mes contorsions désespérées. Je m'accroupis, espérant que la fumée me laisse un bref répit. Sous la brume noire, j'observe les deux corps inanimés de Tom et Gabriel. Je dois couper mes liens, je dois les sortir d'ici le plus vite possible. La grille est ouverte, à 20 mètres, notre porte de salut. La fumée n'est piégée qu'au fond de la cavité. J'arrache à deux mains le couteau planté dans la poitrine de Savine. Son corps est secoué d'un dernier spasme auquel je ne prête aucune attention. Dans quelques secondes, nous serons tous asphyxiés. Je retourne la lame vers mes poignets pour scier la corde, sans me soucier de me taillader la peau avec ni même de me percer les veines. Le voile noir est déjà sur nous. Il enveloppe le cadavre de Savine, comme pour l'emporter en enfer. Les cordes cèdent d'un coup, ainsi qu'un long lambeau de ma chair. Je m'en moque, je rampe, impossible de progresser autrement. Il reste moins de 30 cm respirables à hauteur du sol. Devant moi, les deux petits corps sont allongés. Celui de Tom à ma droite ne s'est toujours pas réveillé. Il dort d'un sommeil profond. Il ne se rendra pas compte que son sang s'empoisonne, que ses muscles se raidissent, que son cerveau se paralyse. Gabriel, sur ma gauche, a lui aussi perdu connaissance. Mais à l'inverse, son corps est secoué de frissons, de haut-le-cœur. Tout son être se bat, se débat contre le mal qui le ronge. La brume est de plus en plus dense. Ses ailes noires se sont posées sur le sol. Plus rien ni personne ne peut lui échapper. Je retiens ma respiration le plus longtemps possible. Tétanisé. Tom, Gabriel, j'ai peut-être encore le temps de partir, mais je n'aurai pas le temps de revenir. Un aller, sans retour. Je n'ai pas le droit d'hésiter. Je dois choisir. Choisir. Quel enfant je vais sauver !